Bonsoir, bienvenue dans cette édition de Feeling de la Presse. Je vous présente trois thèmes, à savoir l'Assemblée nationale à l'issue du débat de mercredi dernier sur le projet de loi portant organisation des élections en République démocratique du Congo. Les divergences ont été observées sur plusieurs questions, notamment le mode de scrutin, le niveau d'études des candidats et la transformation des communes de Kinshasa à circonscription électorale. Ensuite, le processus électoral de la République démocratique du Congo, dans son dernier rapport intitulé « Congo, le dilemme électoral », l'ONG International Crisis Group recommande à la classe politique congolaise de négocier une période de transition et d'établir un nouveau calendrier électoral pour éviter d'organiser des élections bâclées. Enfin, recrudescence de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Le week-end dernier, au Nord Kivu, les convois du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a été attaqué, faisant 2 morts et plusieurs blessés. Et au Sud Kivu, 4 villages attaqués, faisant 1 mort. Toutes ces attaques sont attribuées aux combattants FDLR. Convoi confère journaliste et participe à ces débats. Il s'agit de Giscard Koussema. Il est journaliste à la radio-télévision digitale Congo, émettant depuis Kinshasa. Bonsoir Giscard Koussema.
Bonsoir Guy Maté.
Rombo Otaba est journaliste au journal L'Observateur, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Rombo Otaba.
Bonsoir mon frère Guy.
Magloire Paloukou, il est directeur général de la radio Kivu 1, c'est une radio qui émet depuis la ville de Goma, au nord Kivu. Bonsoir Magloire Paloukou.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les confrères, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Tati.
Débat sur la révision de la loi électorale. International Crisis Group recommande une période de transition ainsi que insécurité à l'est de la RDC. Suivons cette revue de presse que nous propose Samuel Kassak.
Bonsoir. Les débats engagés à l'Assemblée nationale sur les révisions de la loi électorale, le rapport de l'ONG International Crisis Group et la recrudescence de l'insécurité à l'est de la RDC figurent parmi les sujets qui ont occupé les unes des journaux parus cette semaine à Kinshasa. À ce sujet, la tempête des tropiques titre « Les toilettages proposés ont omis les recommandations des nombreux députés ». Ainsi, ces derniers tiennent à ce que le rapport de la commission PAJ consacre le maintien du mode proportionnel et le régime de la transformation des communes de la ville de Kinshasa en circonscription électorale. La référence au plus parle d'une plénière chaotique mercredi 11 mai au Palais du Peuple. Chaotique pour le député MSC, président de la commission politique, administrative et judiciaire, qui a perdu son latin pour défendre l'option controversée levée par les membres de sa commission sur l'élection des 24 communes de Kinshasa en circonscription électorale en lieu et place de 4 ex-districts, à savoir Changu, Lukunga, Funa et Mohamba. Sur un autre registre, le climat tempéré titre des lobbies veulent le report de la présidentielle de 2011. Ce journal affirme que parmi ces lobbies figure l'ONG International Crisis Group qui fait 3 recommandations au gouvernement et à l'opposition. De ces recommandations figurent la négociation d'un nouveau calendrier électoral dans l'éventualité très probable d'un report des élections et négocier un accord de transition qui établisse une nouvelle échéance pour ces élections et limite l'action du gouvernement à la gestion des affaires courantes durant cette période de transition. Ce qui ne sonne pas bien dans les oreilles du gouvernement congolais qui rejette catégoriquement les désirs exprimés par cette ONG, souligne le Forum des As. Terminons cette revue de la presse avec la recrudescence de l'insécurité à l'est de la RDC. À ce sujet, le potentiel titre, les FDLR frappent au cœur du gouvernement. Ce journal fait mention de l'attaque lancée contre le cortège du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Léonard Machako Mamba, à Rutshuru au Nord-Kivu. Ce quotidien indique que le gouvernement a feint d'ignorer le problème en gardant le silence sur toutes les attaques armées attribuées aux éléments des FDLR. Il vient d'avoir la preuve que celle-ci demeure une menace permanente pour la partie est de la RDC.
Merci Samuel Kachak. Un petit commentaire, Giscard Kosseba, vous êtes journaliste à la radio-télévision Digital Congo qui émet depuis Kinshasa. Votre commentaire par rapport au traitement que la presse a fait de l'actualité de cette semaine. Et parmi ces informations qui ont été diffusées, il y a cette crise au sein du MSC et la nouveauté, c'est l'honorable député François Mamba qui a saisi la justice.
Effectivement, cette actualité a également attiré l'attention du chevalier de la plume cette semaine, tout comme la nouvelle tournure dans le procès Floribert Chebeya, et donc toutes ces actualités ont également retenu l'attention, mais comme l'habitude ici, c'est de prendre trois. J'espère que la semaine prochaine, on pourra revenir sur ces deux autres sujets d'actualité. Sinon, pour le reste, ces trois sujets, effectivement, dominent l'essentiel des éditions d'information, qu'il s'agisse de la radio, de la télévision ou de la presse écrite.
Romo Taba, vous êtes journaliste au journal L'Observateur, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. La qualité a été aussi dominée par cette affaire Chebeya, où les avocats de la partie civile se sont retirés.
Oui, ils se sont retirés selon leur argumentaire. Ils sont scandalisés par la demande du ministère public qui leur a demandé de requalifier l'infraction. Ils trouvent inadmissible que les preuves aient été démontrées, surtout par la police scientifique, qui est un organe technique qui a démontré qu'il y avait des traces de violence sur le corps du défunt Chebeya, et qu'aujourd'hui la cour puisse se respecter pour vouloir désorienter la démarche des avocats de la partie civile pour dire que c'était un homicide involontaire. À tout cela a scandalisé les avocats qui ont préféré claquer la porte sur demande des organisations des droits de l'homme.
Merci Magloire Paloukou, vous êtes directeur général de la radio Kivu 1, c'est une radio qui est née depuis la ville de Goma au Nord Kivu. Quelle est la qualité à la une?
Ici, à l'est de la RDC, principalement au Nord Kivu, l'actualité, c'est, comme nous avons prêté, nous, qu'on voit aussi de loin, c'est à la fois cette insécurité qui a été inscrite dans la presse écrite à Kinshasa, ici, mais bon, le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paloukou, a dû aller s'installer au cœur même de cette insécurité dans le territoire de Rutshuru. C'est à près de 70 km au nord de Goma. Et c'est là que d'ailleurs se tenait ce même vendredi le conseil des ministres. Parce que ici, c'est l'insécurité. Et puis, il y a une dernière nouvelle qui intéresse beaucoup l'Est, ici, principalement à Goma. C'est bon, la demande de l'avocat de Laurent Kunda pour demander qu'il soit récupéré l'accès. En effet, c'est ça ce qui tourne autour de la grande actualité à traiter cette fin de semaine et probablement la semaine prochaine.
Merci. Notre premier thème de ce soir, Assemblée nationale, à l'issue du débat de mercredi dernier sur les projets de loi portant organisation des élections en République démocratique du Congo. Les divergences ont été observées sur plusieurs questions, notamment le mode de scrutin, le niveau d'études des candidats et la transformation des communes de Kinshasa en institution électorale. À l'Assemblée nationale, les députés ont débattu mercredi dernier du projet de loi portant organisation des élections en République démocratique du Congo. La plénière de ce mercredi a approuvé les conclusions du rapport de la commission politique, administrative et judiciaire moyennant amendement. Au cours de ce débat, trois points ont fait l'objet des discussions entre députés. Il s'agit du mode de scrutin, de l'érection des communes en circonscription électorale dans la ville de Kinshasa, puis du niveau d'études pour être candidat à la présidence de la République et à la députation. Plus de détails avec Mini Ngumba Mulongo.
Le premier point à divergence reste le mode de scrutin. Il reste majoritaire uninominal pour les circonscriptions à un siège, mais il instaure la proportionnelle à plus fort reste avec un seuil d'éligibilité de 10% par circonscription. C'est-à-dire simplement que la liste des candidats qui n'atteint pas 10% de voix dans sa circonscription est d'office éliminée. Pour certains députés, cette disposition est injuste, alors que d'autres soutiennent que cette spécificité va renforcer la démocratie en ce sens qu'elle permet de laisser la place aux grands partis politiques. À côté de cela, il y a l'élection de communes en circonscription électorale pour la ville de Kinshasa qui chauffe les esprits de la grande partie des députés kinois. Pour avoir éparpillé leurs actions dans des districts comprenant chacun plusieurs communes, certains députés kinois jugent cette option inappropriée, mais d'autres l'encouragent en vue de donner à chaque commune son représentant. Quant au niveau d'études voulues universitaires, une partie le rejette, appuyant que la majorité de Congolais n'a pas suffisamment étudié. L'autre, par contre, l'appuie pourvu qu'il soit maintenu comme tel pour les présidentielles et aussi au Sénat. Depuis les palais du peuple, Lili Ngumba Mulongo, Radio Okapi.
Nous allons lire les signes de certains journaux. Nous avons le quotidien L'Observateur qui dit « Loi électorale, les niveaux d'études exigés aux candidats députés ». Nous avons le quotidien Le Potentiel qui dit « Révision de la loi électorale, les députés divisés sur le mode de scrutin ». Nous avons le quotidien Tempête des Tropiques qui dit « Adopté mercredi dernier à l'Assemblée nationale, la loi électorale continue à diviser ». Giscard Kouséma, la révision de la loi électorale divise majorité et opposition. Comment vous réagissez à cela?
C'est d'abord une situation paradoxale dans la mesure où tout le monde pensait que le débat était déjà validé avec la levée des options fondamentales et voilà qu'on revient à la case départ. Et donc, en ce qui concerne le mode du scrutin, par exemple, à l'unanimité, lors de la présentation de cette proposition de loi, le modèle hybride proposé par la PAJ avait déjà été balayé au profit de la proportionnelle. Et voilà qu'on revient encore avec la proportionnelle
avec le seuil des
10%. Des 10%, un député a même démontré que si on devait appliquer ce mode de scrutin à 10%, et donc c'est pratiquement l'Assemblée nationale laquelle serait vide. Et donc, et ce qui choque, c'est qu'on ne justifie pas certaines options. Pourquoi changer le mode de scrutin? Jusque-là, personne n'est en mesure de relever ici avec conviction et nationalité les faiblesses de la proportionnelle de 2006 qui a fait ses preuves et qui est issue d'ailleurs des travaux laborieux des consensus en dehors de, du pays. Donc je reviens
La majorité dit que la proportionnelle telle qu'est appliquée en 2006 avait consacré certaines injustices.
Mais lesquelles? Parce que la majorité, les majoritaires, permettez l'expression au niveau de l'Assemblée nationale.
Il y a des candidats qui ont obtenu beaucoup plus de voix, mais qui n'ont pas été élus, et tandis que d'autres ont obtenu peu de voix, mais qui
ont été élus. Je crois qu'il y a quelque chose qui se cache lorsqu'on voit l'engouement qu'il y a sur l'avenir des jurys avec des partis politiques. Ce sont peut-être que ces petits partis politiques qui jouent leur survie, sinon c'est des partis qui sont appelés à disparaître. Mais je crois que la proportionnelle, La proportionnelle, il aurait fallu peut-être la soumettre à un examen sérieux, à une espèce d'évaluation avec le concours de spécialistes, des séminaires, mais on n'a pas vu. Il en est de même des deux autres points d'achoppement, donc Kinshasa en circonscription.
Là, on va y revenir.
Voilà, donc c'est cette situation paradoxale qui laisse croire donc qu'il y a un goût sur Roche, mais qui fait craindre parfois des effets pervers.
Rambo Tabac, jusqu'à Kusema, pense qu'il y a Anguille Roche, parce que en fait, l'opposition estime que la proportionnelle avec celle des 10% vise à exclure certains partis politiques.
Et moi, je pense, mon président, que cette question-là soulève un débat des sociétés dans notre pays. Il faut qu'on ait le courage de soulever ce débat de fond. Quel genre de démocratie nous voulons en République démocratique du Congo? Une démocratie du ventre avec une multitude de partis élémentaires qui viennent fausser les yeux dans le pays, ou vraiment une démocratie du développement? Et regardez les grandes nations comme les États-Unis d'Amérique. Il y a combien de partis politiques là-bas? Donc ce sont des gens qui se réunissent autour d'un idéal, d'un projet de société. Le combat aujourd'hui entre les républicains et les démocrates, c'est clair, c'est sûr, le symbole sur la sécurité. Mais ici, à la République démocratique du Congo, n'importe qui se réveille bon matin avec sa mallette, il est attrapé, l'arrêté, il se proclame président des partis politiques.
Et donc, vous êtes pour la proportionnelle avec ces 10%?
Non, je voudrais tout simplement dire ceci, qu'il faut un débat de fond, un débat de société. En ce qui me concerne,
c'est quoi le débat de fond?
C'est ça, moi, si je voulais donner mon point de vue, moi je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait même deux grands partis politiques dans ce pays, pourvu que le débat soit réellement de fond.
Non, il faut écarter les petits partis politiques.
Non, mais quel conseil est-ce que vous dites aujourd'hui, vous êtes président des partis politiques, vous n'avez pas l'ambition de diriger le pays, mais vous voulez être derrière quelqu'un d'autre pour soutenir sa candidature. Mais c'est quoi? C'est quel genre de parti politique?
Merci. Magloire Panoukou, comment ce débat est perçu par la population à Goma, au Nord Kivu?
Je vais dire que je n'ai pas beaucoup faim à micro pour savoir si la population en français, mais il y avait déjà des premières réactions à l'Assemblée provinciale ici, et même avec l'ancien ministre de l'Intérieur, qui est aujourd'hui vice-premier ministre, de Fonvanou, qui avait déjà parlé aux députés de cette question. En effet, la proportionnelle, c'est la raison même de la démocratie. On ne peut pas être un député impopulaire, ou le populaire reste en circonscription électorale en province ou en territoire, pendant que celui qui était sur la liste, celui qui est plus important au niveau de l'argent peut-être, mais et qui est envoyé par exemple à l'Assemblée provinciale ou à l'Assemblée nationale. Avec celui qui est un député, c'est celui qui a plus de points. Vous ne pouvez pas être député avec 5% et celui qui a eu peut-être 15% au-delà des 10%, c'est celui qui reste. Avec le débat est très partagé, mais moi je pense que la proportionnelle, c'est la voie directe, la vision même de savoir qui est leader. Je me lis au contraire de l'observateur Combo, qui en effet, on ne peut pas avoir des députés, on ne peut pas avoir des hommes politiques impopulaires. Quelqu'un qui va représenter toute une population, c'est celui qui a été bien voté. Je pense que ce sera là la logique et maintenant et même la définition de la démocratie, où c'est la majorité qui garde plus de points.
Oui, au sujet de l'autre question, en fait, c'est le niveau d'études des candidats, et la formule qui a été retenue, c'est soit le diplôme, soit l'expérience professionnelle avérée. Là, on a trouvé un juste milieu jusqu'à ce moment.
Oui, écoutez, je crois que le critère d'avoir un diplôme reste du même un critère rationnel. L'exemple, il est dans le quotidien. Regardez le débat au niveau de l'Assemblée nationale. Ce sont les mêmes personnes qui interviennent. Il y a des députés nationaux aujourd'hui qui viennent de terminer leur législature sans avoir pris la parole un seul instant et qui parfois votent toutes les fois lorsqu'on est pour ou contre. Et donc, il est tout à fait normal et rationnel qu'on impose un minimum tout de même. Le mandat est celui de représentation. Ce n'est pas une simple représentation physique, non. Il faut avoir la capacité de pouvoir récolter les desiderata et les faire prévaloir au niveau des institutions. Et donc, on ne peut pas les faire seulement sur base du simple critère de popularité. Non, cela ne suffit pas. Je crois qu'il est tout à fait normal, rationnel, que de pouvoir imposer un seuil lorsqu'on veut tout de même gouverner un grand pays comme la République démocratique du Congo.
Eh bien, on ne peut pas adjoindre à ce niveau d'études de l'expérience professionnelle.
Oui, toute expérience professionnelle n'est pas toujours positive. Tout dépend du domaine dans lequel on évolue. Mais je crois que le diplôme, c'est vrai qu'il s'agit d'une présomption de connaissances. À ce diplôme, on peut ajouter l'expérience, c'est vrai, mais on peut prendre les deux.
Romo Taba, une certaine opinion pense que le problème des Congolais n'est pas lié au niveau d'études, mais plutôt à l'éthique. Comment vous réagissez à cela?
Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Mais de toutes les façons, on ne peut pas se faire prévaloir d'une certaine éthique avec une telle vie. Ça, c'est incompatible. Donc, il faut d'abord être suffisamment armé intellectuellement et pour poser des actes moraux dignes. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, il y a un manque, effectivement, dans notre société, la société congolaise est gangrenée par un mal qui ne dit pas son mot, effectivement, mais les critères du niveau d'études, ça c'est incontournable, c'est parce que vous ne pouvez pas venir prétendre, défendre une population qui vous a élu sans que vous ayez des connaissances de base. C'est comme Gérard Demel le dit, il y a beaucoup de députés aujourd'hui qui sont arrivés au palais du peuple sans savoir pourquoi ils sont là. Les partis politiques les ont alignés sur la liste, ils ont été élus malheureusement de manière irrationnelle, je m'excuse les termes, et ils viennent là-bas pour applaudir, ils attendent, mais à la fin du mois, ils vont commencer à savoir mais qu'est-ce qu'on va payer, et le reste, ce n'est pas leur problème.
Donc, lorsque vous trouvez dans un siège électoral où parmi les candidats, il n'y a personne qui a le niveau universitaire, mais ces candidats ont une certaine expérience avérée. C'est compris.
Non, mais je pense que bon, l'expérience de 2006 a été une malheureuse expérience, vous comprenez, ce sont les premières élections après plusieurs années, mais cette fois-ci en 2011, je pense que, étant donné que certaines séances plénières de l'Assemblée nationale ont été suivies en direct par la population, dans les faits, ils ont compris, les électeurs ont compris que cette fois-ci, ils ne peuvent pas voter n'importe qui. Je pense que même si la loi électorale ne le reprend pas, mais les électeurs eux-mêmes en tiennent en compte.
Mme Baloukou, quelle est votre opinion par rapport à cette question sur le niveau d'études des candidats?
Moi, je me méfie de cette question. Ce débat est venu peut-être de l'opposition ou du NLC, certainement, vous comprenez que le débat pourrait être prolongé jusqu'au niveau de la présidence de la République. Vous comprenez, encore, ça sera un débat très fluide et bon qui devrait intéresser les autres. Si Joseph Kabila était concerné par rapport aux autres, c'est des choses qu'il ne faut pas cacher et qui a un goût sous roche. Mais moi, je miserais, comme les deux contraires, sur l'éthique. Quand on voit le Sénat ou l'Assemblée nationale, bon, quand même, il y a une grande partie des professeurs qui sont là, l'éthique nous manque. Et dans les années 90, rappelez-vous, les étudiants de Kassapa, de Lubumbashi, étaient surpris de voir certains professeurs d'université aller défendre au Parlement le contraire de ce qu'ils donnaient comme cours scientifique. Parce que l'éthique est très obligatoire, comme aux États-Unis, comme en Europe, où les gens sont capables de démissionner quand ils font des fautes professionnelles graves ou quand ils vont dans le contraire de ce qui est enseigné. Quand on regarde aussi l'Assemblée nationale, des éminents professeurs qui sont là, ou des bons juristes, mais chacun, vous savez, une loi est toujours un tout petit peu subjective, donc au-delà même des diplômes, de ce débat, moi je crains encore au niveau des présidents, des candidats présidents de la République, que ça vise certaines personnes dont le champ a été toujours le même depuis 2006, pratiquement.
Hein. Et il faut rappeler que la formule qui a été retenue, c'est soit le diplôme, soit l'expérience professionnelle avérée. Et jusqu'à forcément au sujet de la transformation de certaines communes, des communes de Kinshasa en circonscription électorale, quel est votre point de vue?
Oui, bon, je voudrais d'abord m'interroger sur les raisons majeures qui ont poussé les législateurs à pouvoir proposer les communes pour la seule ville de Kinshasa.
Comme ceux-là, ceux qui tiennent cette idée, disent qu'il y a des communes qui se disent sous-représentées.
Écoutez, non, il ne s'agit pas ici d'une représentation des communes parce que il n'y a pas que la ville de Kinshasa qui compte des communes. Lubumbashi en compte 7 et les autres villes du pays également. Tout le problème, c'est par rapport d'abord à l'opérationnalisation même des opérations électorales permettait l'expression. Comment voulez-vous, lorsqu'on sait que les capacités d'opérations ont été réduites de 60%, me semble-t-il, au niveau de la CENI, et qu'on arrive à multiplier de circonscriptions au niveau de Kinshasa, alors qu'il en manque, on en manque actuellement au niveau de province. Mais non, est-ce que vous savez que les territoires qui ont été érigés en circonscriptions électorales ont la dimension de certains pays d'Europe? La République démocratique du Congo compte aujourd'hui 145 territoires, et un territoire comme Massimanimba, comme Idiopa, comme Bafouassende, mais c'est plus étendu que la Belgique.
Il faut rappeler que la ville province de Kinshasa a environ plus de 10 millions d'habitants.
Oui, mais le problème, ce n'est pas seulement au niveau de, même au niveau des districts, mais c'est le nombre d'enrôlés. Les critères restent les mêmes dans tous les cas que les autres pays. Il faut équilibrer les choses. Ce n'est pas 10 millions pour la seule ville de Kinshasa, mais lorsqu'on donne les quotas au niveau des districts, vous verrez qu'il y a des districts qui ont autant de députés qu'un territoire de l'intérieur du pays. Donc, je pense que ce côté-là, mais le plus important, c'est qu'on évite les débats pour justifier cette question, alors qu'on manque cruellement de bureaux d'enrôlement. On veut en ouvrir d'autres à Kinshasa, et cela risque de favoriser une seule tendance politique, ce qui n'est pas bon.
Rombo Taba, la transformation des communes de Kinshasa, de la ville de Kinshasa, en fief électoral.
Oui, mais justement, ce que moi je dis, c'est moi je préfère que on débatte du fond de la question. Quels sont les arguments? Apparemment, il n'y en a pas. Parce que d'abord, le débat s'est passé au niveau de la plénière. Les tendances majoritaires s'est dégagée pour les statu quo hanter. C'est-à-dire, des quatre districts.
Voilà.
Et la commission PAJ va se réunir pour battre en brèche les arguments de la plénière. Là, déjà, c'est une faute politique très grave. En principe, moi, je pense que les députés auraient interpellé les présidents de cette commission-là. Parce que ce n'est pas possible. Maintenant, les arguments qu'ils avancent. Pourquoi vouloir
réduire
les institutions communales au niveau de Kinshasa seulement pour la ville de Kinshasa? Et alors, l'État sur toute la ville du pays, est-ce qu'il y a une raison fondamentale pour que la commune de Kinshasa devienne une circonscription par rapport aux autres villes? Il y a des arguments. S'il y a des arguments positifs, oui. Mais malheureusement, jusque-là, nous n'en savons pas. Alors, ce qui fait que c'est comme s'il y a une nébuleuse qui voudrait manipuler cette commission-là. Et là, c'est grave pour une assemblée nationale.
Il y a des communes du temps qui seraient sous-représentées.
Oui, ça, c'est ce qu'on dit. Mais quelle chose, il faut qu'on rapporte de près, parce qu'il est dit qu'un député national doit représenter dans une ville sa commune. Nous sommes d'accord, mais il faut qu'on apporte des éléments objectifs. C'est ça mon problème.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Processus électoral en République démocratique du Congo. Dans ce dernier rapport intitulé « Congo, le dilemme électoral », l'ONG International Croisés Group recommande à la classe politique congolaise de négocier une période de transition et d'établir un nouveau calendrier électoral pour éviter d'organiser des élections bâclées. Les grandes lignes de ce rapport avec Kelly Nkouté.
Pour International Crisis Group, les préparatifs techniques sont en retard. Ni la loi électorale, ni la liste des électeurs, ni les budgets ne sont prêts. La mise en place avec une année de retard de la Commission électorale nationale indépendante a entamé une véritable course contre la montre. L'enregistrement des électeurs est déjà controversé. Le financement du cycle électoral est incomplet et le calendrier électoral qui ne respecte que partiellement les échéances constitutionnelles est problématique, estime l'ICG. L'ICG estime que compte tenu des risques d'illégitimité des élections, d'enfants, des fraudes et des violences, la communauté internationale ne devrait pas rester en arrière-plan, mais plutôt faire comprendre aux politiciens congolais qu'un report des élections serait préférable à des élections bâclées. La communauté internationale, incluant le Conseil de sécurité des Nations Unies et l'ensemble des bailleurs des fonds, devrait clairement faire pression sur les autorités congolaises pour qu'elles mettent en œuvre les mesures essentielles et appliquent les mêmes standards qu'en 2006 pour suivre cette ONG internationale. En fait, cette ONG recommande entre autres à la majorité et à l'opposition de négocier un nouveau calendrier électoral dans l'éventualité très probable d'un report des élections, de négocier un accord de transition qui établisse une nouvelle échéance pour ces élections et limite l'action du gouvernement à la gestion des affaires courantes durant cette période de transition.
Magloire Paloukou, comment vous réagissez face aux recommandations contenues dans ces rapports?
Je suis tout à fait d'accord, ça va scandaliser un tout petit peu, peut-être, mes confrères. Bon, en effet, c'est, ça serait tricher avec la réalité, tricher avec même l'évidence, si on avait les élections d'ici. Bon, c'est pas vrai. On parlait tout à l'heure des communes et des territoires. Ici, par exemple, dans les territoires de Walikale, ici au nord Kivu, il y a des coins où il faudra changer de province pour aller se faire enrôler. Et il faut marcher 7 jours à pied toute une semaine pour aller trouver un centre d'enrôlement. Et un peu plus loin, ici à Goma, il y a des gens qui ne sont même pas enrôlés jusqu'à présent, et c'est difficile, il y a encore d'autres débats. Je pense s'il y a une autre période de transition, cette fois-là, et c'est à rediscuter, et voir s'il faudra accepter qu'à partir de 6 décembre, qu'on accepte que le gouvernement qui est là, et que les députés, malgré leur mandat fini, qu'ils conduisent les affaires courantes. Ça serait plus réfléchi. Sinon, on va tricher. Je vous assure, il n'y a pas d'argent. Les ordinateurs tombent en panne tout le temps. On va arriver en novembre qu'on n'aura pas fini d'enrôler tout le monde. Je pense que c'est très réfléchi. Et je soupçonne même que certains pays européens, comme la Belgique, aient déjà souscrit à cette idée. Je pense.
Romain Taba, comme le dit Mamba Paloukou, ce serait plus réfléchi si on instaurait une période de transition. Vous partagez ce point de vue?
Je suis tout à fait opposé à cette idée. Moi, je pense que International Crisis Group, je ne peux pas dire s'il aime les Congolais, il n'y a pas d'amour à cette matière-là. Je pense que la seule recommandation rationnelle qu'elle devrait faire, c'est de faire un plaidoyer à ce moment précis pour que le partenaire de la RDC l'assiste avec des moyens suffisants justement pour corriger tout ce qui est mal en ce moment-ci. Je ne m'imagine pas qu'après le 6 décembre, qu'on négocie une transition et que les esprits soient apaisés dans ce pays. Parce que les gens qu'on rencontre dans la rue, dans le bus, ne veulent qu'une seule chose, que les élections arrivent et qu'on puisse changer l'arsenal politique dans le monde politique dans ce pays. Parce que les gens sont en train de souffrir et les élections de 2006 n'ont rien donné de ce qu'ils attendaient. Ils veulent sanctionner en quelque sorte ceux à qui ils avaient mis confiance. Moi, je pense qu'il faut vraiment, vraiment mettre fin à cette idée-là d'un gouvernement de transition. Je pense que pour le moment, il faut faire un plaidoyer par tous les moyens. L'argent, il n'y en a pas. Il y en a. Même, on ne peut pas avoir honte même de demander aux citoyens congolais de finir à porter, je ne sais pas, dans les églises ou quoi, une contribution sociale pour les élections. Mais moi, je ne vois pas les Congolais accepter qu'après le 6 décembre, qu'on donne encore aux politiciens la possibilité de coaliser pour un gouvernement de transition. Ça ne va pas passer dans la tête des Congolais.
L'histoire qui se marre et qui
Oui, moi, je voudrais d'abord, j'ai fait la lecture du rapport de l'ICG à ma manière. Pour moi, ce rapport comprend deux parties. La première, c'est un état des lieux, et puis la deuxième, les recommandations. Et donc, l'état des lieux dressé par l'ICG me paraît tout à fait rationnel. Elle sur base des éléments probants et vérifiables. Imaginez-vous, mon cher ami, que les échos qui viennent des provinces sont très alarmants. On a réduit la capacité de travail des équipes du CENI
On augmente dans certains coins, la population est obligée de franchir 90 km carrés pour trouver un bureau de vote. Et même lorsqu'on y arrive, on est obligé de passer plusieurs nuits entières, encore que là, les machines ne marchent pas. Prenons le cas de la ville de Kinshasa. Chacun de nous, j'espère pour ceux qui sont déjà passés par les bureaux, savent qu'il y a d'abord d'énormes problèmes pour pouvoir trouver un bureau d'enrôlement. Lorsque vous faites les projections au niveau du nombre d'enrôlés par bureau et par jour, vous verrez que finalement, on ne sera pas en mesure d'enrôler plus de 5 millions à Kinshasa. C'est un scandale, alors qu'on a eu près de 10 millions en 2006. Et lorsqu'on projette pour l'ensemble du territoire national, on se rend compte qu'avec la manière de travailler actuellement et dans 60 jours, on ne saurait pas dépasser plus de 15 millions ou même 10 millions d'habitants. C'est aussi un scandale là où on attend plus de 35 millions.
Je pense qu'on peut dire des recommandations.
Oui, par rapport aux recommandations, je crois qu'il n'y a pas de honte que de pouvoir organiser une transition qui, par définition, se définit comme une période de passage. On sait que seules les élections confient à un groupe politique la gestion d'un pays. Mais lorsque on n'arrive pas à les organiser, il est tout à fait normal que toutes les intelligences soient mise en synergie pour la gestion du pays. Ce pays appartient à tous les Congolais. Il ne s'agit pas d'un partage, il s'agit d'une préparation ensemble des élections pour donner des résultats là où peut-être un groupe a échoué, disons-le. Il y a des éléments qui nous amènent aujourd'hui droit vers le mur. Et donc, à rien qu'à prendre en compte les opérations d'enrôlement à Kinshasa et en province, on se rend compte finalement qu'on n'aura pas à obtenir des résultats escomptés dans les temps fixés par la CENI.
Magloire Panoukou, ce que recommande l'ICG, l'ONG ICG, ce n'est pas ce que pensent tout bas certains des acteurs politiques de la RDC. Nous avons suivi la réaction d'Azarias Rouberoa au lendemain de la publication du calendrier électoral par la CENI, qui proposait déjà des concertations politiques.
Je pense que Azarias Rouberoa a raison. Il faut voir dans sa circonscription électorale s'il est encore reconnu là-bas ou ceux qui sont en province. Parce que en effet, je réagis à ce que font vos idées. On a l'impression d'avoir deux en régime démocratique du Congo par rapport à la vision qu'on a de la question politique quand on est à Kinshasa et quand on est en province. J'espère que c'est moi qui fais beaucoup de reportages que j'apprécie et que je vois qui est sur terrain. C'est vrai, c'est difficile. Hein. Nous sommes en mai, n'oubliez pas que nous sommes en mai et qu'il faut 3 mois. Et je pense qu'a dit Azarias Rouberoa reflète ce qu'il fait de sa province de Kivu et de sa circonscription électorale dans les communes de Moulengue. En effet, c'est difficile en 3 mois d'avoir fini les questions et les revendications de la période d'enrôlement. Mon confrère de l'Observateur à Congo dit qu'il faudra même tous les moyens, la plaidoirie actuelle, ce qu'on accepte à négocier une seule chose, mon cher Guimaté, une seule chose, c'est que l'opposition accepte à partir du 6 décembre qu'on gère la période d'après. C'est tout à fait normal. Il y a des gens en province et il faut voir ça. Il ne faut pas voir ça seulement de Kinshasa. Il faut voir cela du plus petit lieu de territoire de ce grand pays.
Rombo Taba, si les élections sont reportées, faut-il nécessairement instaurer une période de transition ou carrément recourir au deuxième alinéa de l'article 70 qui dispose qu'à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu?
Oui, mon frère Guimaté, on ne dirige pas un pays par défi. Il faut être à l'aise quand on dirige un pays, on se sent libre. il ne faut pas qu'après le 6 décembre, le président Joseph Kabila se sente mal à l'aise. Il se dise que, mais en fait, moi, non, vous voyez quelque part pour éviter ça. Les membres de l'opposition, justement, ne font pas justement accepter. Ne faut pas accepter cette possibilité-là que les mandataires actuels continuent à diriger le pays de cette façon-là, parce qu'ils n'ont pas pu organiser.
Vous savez, il y a une disposition, il y a l'alinéa 2 de l'article 70 qui prévoit une telle situation.
Non, mais justement, il y a un problème, il y a la lettre d'esprit. Quand vous savez quand un gouvernement mais ne peut pas organiser des élections à tel mesure. Donc là, c'est déjà une disqualification. C'est déjà une disqualification pour ce gouvernement. C'est pourquoi, pour moi, il faut éviter ce genre de scénario catastrophe. Il faut faire tout, même si il faut que les agents de la CENI travaillent à double vacation, les uns les jours, les autres la nuit, mais il faut éviter ces semaines. On ne doit pas considérer notre pays comme un pays où il n'y a pas d'intellectuels qui ne réfléchissent pas.
Merci, nous passons à notre dernier thème de ce soir, recrudescence de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Le week-end dernier, au nord Kivu, le convoi du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a été attaqué, faisant 2 morts et plusieurs blessés. Et aussi Kivu, 4 villages attaqués, fait 1 mort. Toutes ces attaques sont attribuées aux combattants FDLR. Au nord Kivu, la sécurité est montée d'un cran ces derniers jours à Rutshuru, avec l'absence de militaires FARDC dans plusieurs localités de ces territoires. Au moins une dizaine de cas d'attaque de FDLR ont été signalés depuis le début de ces mois. Le dernier en date est celui contre le convoi du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Léonard Machako Mamba. C'était samedi dernier à Kafuguru. Le gouverneur du Nord Kivu s'est dit préoccupé. Julien Paluku a depuis lundi dernier installé provisoirement son quartier général à Rutshuru Centre afin de suivre de près la situation. Le point avec Sifa Maguro.
Parmi une dizaine de cas signalés depuis le début de ce mois, on note cette attaque sur le convoi du ministre de l'Enseignement supérieur, Machako Mamba, samedi dernier à Rutshuru, occasionnant la mort de 2 personnes. Dans la même nuit, une autre personne a été tuée à Nguenda, toujours par les FDLR, et la veille, c'est à Rukora, sur l'axe Bunagana, où ces rebelles ont tué un habitant. La semaine dernière, c'est un territoire de Masisi, où l'on a enregistré la tuerie de 9 personnes, parmi lesquelles un pasteur d'une église locale, un élément de la police nationale congolaise. Toutes ces personnes ont été tuées par les FDLR dans les villages Umura et Kazunga en groupement Yamaboko 1. Plusieurs localités de ces secteurs du sud de Masisi ont été abandonnées par les habitants depuis ces attaques. En début de la même semaine dernière, c'est encore à Kiwanja, à Rutshuru, où un groupe de FDLR a attaqué la cité. Plusieurs commerces ont été pillés et quelques personnes blessées au cours de cette attaque. Kiwanja est à plus de 70 km au nord de Goma, en territoire de Rutshuru. Les sources militaires ont parlé d'une opération de représailles menée par les FDLR après que ces derniers aient subi une lourde perte lors des opérations lancées contre eux à l'ouest de Kiwanja. C'est des nouvelles opérations militaires appelées Duamtia qui sont conjointement menées avec la MONUSCO contre les FDLR dans cette partie de Rutshuru. Goma, Sifamaguru, Radio Kapi.
Juste forcément, vous êtes journaliste à la radio-télévision Digital Congo et médecin depuis la ville de Kinshasa. Comment vous analysez cette insécurité récurrente à l'est de la RDC?
On ne le dira jamais assez, la partie est du pays reste donc le ventre mou de la République démocratique du Congo. Mais curieusement, dans tous les discours officiels, maintenant on a tendance à croire que la situation est relativement calme. C'est la situation qui revient. Et donc derrière ce calme relatif se cachent en fait des morts au jour le jour. Il y a quelques jours, un député qui se déroule a dit ici que dans cette partie de Rutshuru, on enregistre tous les jours depuis 3 ans 2 à 3 morts. Alors multiplier 2 à 3 par le nombre de jours, le nombre d'années, on voit finalement que c'est des cimetières entiers. Et donc la situation n'est pas aussi calme qu'on le pense, même pas un calme relatif lorsqu'on enregistre un nombre de morts. Alors, comment voulez-vous, dans des conditions comme celle-là, que des populations se déplacent à 90 km, à 50 km pour aller chercher un bureau d'enrôlement ou pour aller voter. Non, je pense que c'est une situation aussi grave qui appelle de la part des autorités des solutions adéquates, sinon c'est une situation qui pourra avoir des répercussions sur ce dont on parlait tout à l'heure, sur les opérations de vote.
Magloire Paloukou, vous êtes directeur général de la radio Kivu 1, une radio qui émet depuis la ville de Goma au Nord Kivu. Et comment vous, qui êtes sur place au Nord Kivu, comment vous expliquez cette recrudescence de l'insécurité dans cette partie du pays?
D'abord, je veux dire que je n'ai pas apprécié les titres parus à Kinshasa. Il y avait un titre, je ne sais pas si je vais bien le répéter, mais vous dire le gouvernement touché, donc, okay, je sais pas, on a touché le cœur du gouvernement. Ce n'est pas parce que le professeur Macha commande
Pardon? Ok, ça va. Ok, on va finir.
Oui, ce n'est pas parce qu'on a tenté à la vie du professeur Macha, quoi, envers qui j'ai du respect pour avoir travaillé avec lui, que maintenant on va parler de recrudescence. Non, l'insécurité est endémique ici. La dernière actualité de cette insécurité et la cause peut-être, c'est le mauvais déplacement et le mauvais changement de bataillon en régiment. Vous savez, actuellement ici, il y a les régiments, 802e ou 803e régiment, ici en France, Nord Kivu, et chaque fois que les militaires sont déplacés, ils laissent des vides qui sont occupés par les groupes armés qui étaient déjà chassés par là. C'est ça, et à Rutshuru, et dans le territoire de Rutshuru et dans le Masisi, nous avons fait des reportages là-bas, la population exige et demande d'ailleurs, chaque fois qu'il y a un mouvement des militaires, qu'on remplace ces endroits vides, soit par la police, soit par d'autres militaires, pour surveiller ces endroits. Parce que c'est vrai, si comme Agourou vient de le dire, il y a un tout petit peu de représailles. En effet, c'est la désorganisation actuelle des mouvements des militaires qui cause cette insécurité où le terrain vide est récupéré par les groupes d'armées. Oui, c'est vrai.
Romo Tabar, vous êtes journaliste au journal L'Observateur, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Magloire Paloukou, qui est sur place au Nord Kivu, parle d'insécurité endémique. Il dit que l'insécurité est endémique dans cette province et il l'explique par le fait du changement des bataillons en régiment.
Le problème aussi, j'aime bien les débats sur le fond. Il faut noter qu'il y a une faillite totale de l'État. L'État est pratiquement mort dans notre pays. Si dans l'Est, nous parlons aujourd'hui, si on a la presse s'est saisie de la question, c'est parce qu'il y a eu un ministre, c'est qui a tapé. Le ministre étant un ministre, bon, il a eu ses droits, ses privilèges-là. Mais c'est tous les jours que dans cette partie du pays, on pleure de mort. Dans la ville de Kinshasa ici, je me demande s'il peut se passer une seule nuit sans qu'on arrive un cas d'assassinat quelque part dans une commune. Donc l'État est mort dans notre pays, il faut faire en sorte qu'il y ait renaissance de l'État dans notre pays. Sinon, ça, ce sont des épiphénomènes. Il y a dans une région, dans une zone comme celle de Rutshuru, où on sait qu'il y a des bandits. Moi, je l'appelle des bandits, ces gens-là. Ce sont des bandits qu'il faut traiter comme tels. Mais quels sont les traitements accordés aux militaires qui sont là-bas au front? De quelle manière sont-ils traités? Parce que là, ce sont les gens qui, on lance, je pense que si Obama a envoyé les commandos là, au Pakistan pour mettre fin à Ben Laden, à la ville de Ben Laden, on a motivé suffisamment ces gens-là, on les a motivés, on les a préparés. Mais quand on sait qu'il y a des bandits dans cette partie-là du territoire qui sèment la désolation là-bas, mais je pense que les militaires qu'on envoie là-bas au front doivent être aussi suffisamment motivés, doivent être suffisamment encadré. Donc, en fait, pour ne pas me répéter, le problème qui est là-bas au fond, c'est un problème de l'État qui n'existe plus. Il faut que l'État renaisse dans notre pays et c'est pourquoi les Congolais veulent à tout prix que, au plus tard le 16 et le 6 décembre, qui sont organisés pour qu'il y ait alternance dans ce pays.
Merci, c'est la fin de cette émission. Guy Mandango était à la technique, Alain Ronde à la réalisation, assistée de Samuel Kachak, sous la supervision de Martin Sebujangwe, devant ses micros, Guy Maté, merci, et bon type de programme sur Radio Okapi. Thank you.